Chapitre 2. Trois semaines plus tard, Armelle, Alain et Florita arrivaient à Runesto. En serrant le jeune homme entre ses bras, Madame de Pinvalas murmura « Mon Alain, mon glorieux enfant, ah, ton père serait fier de toi, lui qui était un si ardent Français. Chère grand-mère, je voudrais avoir fait 100 fois plus pour notre France bien-aimée. Et si je regrette d'être infirme, c'est surtout parce que je ne pourrai plus la servir comme auparavant. » Tu la serviras d'une autre manière, mon chéri. Va, nous savons bien que tu ne seras jamais un inutile. » Florita, fort tendrement accueillie, elle aussi, par la bonne aïeule, laissait voir toute sa joie de se retrouver à Runesto. La mémoire lui revenait vite pour tout ce qui avait trait aux lieux et aux personnes connues d'elle depuis l'enfance, aux événements qui s'étaient déroulés avant la guerre. Mais pour le reste, il y avait, comme elle le disait elle-même, un trou dans son cerveau. Ainsi, elle ne put jamais se rappeler à quoi se rapportait une adresse trouvée dans sa poche, écrite par elle sur un petit carré de papier, « Mesdemoiselles Jeanne et André Barbou, 17 rue de Puteaux. » « Je n'ai connu personne de ce nom-là, » disait-elle à son fiancé. « Vraiment non, je ne me souviens pas. » « Ne te fatigue pas le cerveau à ce sujet, ma chérie. Cela viendra tout seul un de ces jours, tu verras. » Tous, autour de la jeune fille, évitaient de lui rappeler son séjour parmi les ennemis et les péripéties de sa fuite. Il fallait auparavant qu'elle reprît des forces, qu'elle se remît, physiquement et moralement, de la terrible secousse. L'amour de son fiancé, l'affection de la marquise et d'Armelle, la gentillesse de la petite Marie Florita devaient contribuer à hâter cette complète guérison, à remettre en bon ordre ses facultés, un instant ébranlées. Alain entourait la jeune fille d'une constante sollicitude. Ses dangers courus ensemble, les angoisses qu'ils avaient ressenties l'un pour l'autre accroissaient encore la force de leur amour. Le jeune homme disait à son aïeul avec enthousiasme « Vous ne sauriez croire, grand-mère, de quelle force d'âme, de quelle énergie est capable ma Florie bien-aimée. Quelle épouse et quelle mère parfaite ce sera. Sans parler de son cœur, le plus délicat, le plus tendrement dévoué que l'on puisse rêver. » Et Florita, de son côté, confiait à la marquise « J'ai peur d'être trop orgueilleuse, chère bonne maman. » Trop orgueilleuse d'Alain. Je l'admire tellement. Il est si beau, si bon, et il a été un de nos plus héroïques défenseurs. » Mais ce n'était pas Madame de Pinvalas qui aurait blâmé l'amoureuse fiancée, car elle-même, dans le secret de son cœur, plaçait au-dessus de tous son Alain chéri, auréolé maintenant par l'héroïsme et la souffrance. Le jeune homme, en attendant que sa fiancée pût l'accompagner, sortait chaque matin pour refaire ses forces à l'air natal, au grand souffle pur de l'océan. Par les jours calmes, il embarquait sur la Marie-Antoinette que gouvernait Yves Gouèze, solide encore, en dépit de ses 91 ans. Le vieillard restait en extase devant Alain, qui lui racontait quelques épisodes de la guerre, et il disait parfois, en tendant le poing vers un ennemi invisible, « Ah, si j'avais seulement 30 ans de moins, oui, monsieur le marquis, je m'engagerais pour aller tuer quelques-uns de ces brigands. »
« Tenez, ils ont encore torpillé un vapeur l'autre jour, pas loin d'ici. » « Sûr qu'ils ont des refuges, peut-être même sur nos côtes. On devrait fouiller celle-ci, sérieusement. »
Un jour, qu'en revenant d'une promenade en mer, Alain et le vieux marin s'entretenaient ainsi des sous-marins allemands, Monsieur de Pinvalas, qui regardait à ce moment Kéréven, fit observer. « Voilà qui serait un excellent point de ravitaillement pour eux, surtout étant donné l'existence des souterrains. Dame, oui, monsieur le marquis, s'ils avaient pu s'en emparer. Mais heureusement, les Anglais sont toujours là. Ils y ont même passé l'hiver cette année. La dame, qui a toujours les nerfs malades, n'a pas voulu quitter la maison. » Yves s'interrompit, se frappa le front et ajouta « Entre nous, monsieur Alain, je crois que la pauvre femme est quasi folle. Du reste, monsieur Barwell a bien l'air de le dire. » « C'est dommage, car il paraît un brave homme. Quand j'ai été malade il y a 2 ans, il est venu me voir, m'a apporté du bon vin vieux, du tabac, et a causé longtemps avec moi. « Oui, c'est certainement un très brave homme, et tout le monde le dit dans le pays. » Comme la Marie-Antoinette approchait du ponton, Yves Gouèze annonça. « Voilà justement l'Anglais qui vient faire sa promenade en mer. Il aime ça, cet homme. C'est son seul plaisir, comme il dit. » Monsieur Barwell arrivait en effet sur le petit embarcadère auquel était amarré son côtre. Quand Alain eut débarqué, il lui donna une cordiale poignée de main, s'informa de ses nouvelles, de celles de Mademoiselle de Valserre, glissa un discret éloge de la bravoure de l'officier. Monsieur de Pinvalas le trouva passablement vieilli. Comme le disait Yves Gouèze, La santé de sa femme lui donnait peut-être de pénibles soucis. En outre, cette guerre dans laquelle son pays se trouvait aussi engagé devait l'éprouver, moralement, comme beaucoup d'autres. Il n'y fit qu'une brève allusion ce jour-là. D'ailleurs, les deux hommes n'échangèrent que quelques mots, et après une nouvelle poignée de main, ils se séparèrent. Le lendemain de ce jour, à la petite station desservant Connestel, une femme descendit du train qui s'arrêtait là vers 10 heures du matin, une femme grande, mince, enveloppée d'une mante noire, coiffée d'un petit chapeau de paille grise auquel s'enroulait un voile épais qui laissait à peine distinguer de beaux traits, un teint très blanc, des yeux vifs. On percevait des cheveux châtain clair, en gros bandeaux couvrant les tempes, en torsades nouées sur la nuque. L'étrangère tenait à la main un sac de toile cachou, et un parapluie qu'elle ouvrit, une fois hors de la gare, car il tombait une pluie fine. Sans demander aucun renseignement, elle s'engagea sur la route d'un pas alerte. Puis, elle prit un sentier qui, à travers champs et landes, menait directement vers la mer. À gauche, dans le jour brumeux, se profilait, sombre et altière, la vieille tour de Runesto, entre des frondaisons d'arbres séculaires. L'inconnu s'arrêta un moment pour la regarder. Une flamme luisait dans son regard, derrière le voile. Elle dit entre ses dents, avec un accent de farouche menace, « Vous n'en avez pas encore fini avec ceux qui vous haïssent. Oui, oui, nous troublerons votre bonheur, ne craignez rien. » Et elle se mit en marche, dans le sentier bordé de haies d'aubépine. Au bout de 10 minutes, Kéréven apparut, noir et lugubre dans ce jour gris. Sur la mer, une brume s'étendait, voilant tout l'horizon. C'était vers la vieille maison que se dirigeait l'étrangère. Elle s'engagea sur le promontoire, non sans avoir jeté autour d'elle un rapide coup d'œil, comme pour bien s'assurer que les alentours étaient déserts. Du même pas, sans hâte, elle gagna le logis, dont la porte s'ouvrit avant qu'elle eût frappé, comme si on la guettait, et se referma aussitôt son entrée. Elmer se tenait dans le vestibule sombre. Il s'empara du sac de l'étrangère en s'écriant « Oh, madame la comtesse, faire ce trajet à pied !»« Ce n'est rien, cher monsieur Elmer, ce sac n'est pas très lourd, et il était plus prudent de ne pas prendre de voiture pour ne pas attirer l'attention sur moi, car, officiellement, la comtesse de Ronchet est depuis hier retenue chez elle par une crise de rhumatisme qui la prive de se rendre, comme chaque jour, à son hôpital. » Elmer sourit. « Oui, je comprends, et vous avez pu partir sans être remarqué. De nuit, oui. J'ai pris hier soir le train au Quai d'Orsay. Puis, vous le voyez, je suis assez bien camouflée. Les gens ici ne reconnaîtraient pas Elsa aux cheveux bleus. » Elle eut un petit rire bref, puis ajouta. « Je ne me soucierai pas néanmoins d'être rencontrée par Monsieur de Pinvalas, parce que lui est observateur perspicace. Eh bien, ils sont ici, les amoureux ?» Sa voix tremblait en prononçant ces mots. « Oui, comme je vous l'ai écrit, la jeune fille n'est pas remise encore. Mais entrez donc, madame, nous allons causer plus à l'aise. » Et, tout en ouvrant la porte du salon, devant l'arrivante, il ajouta. « Je vous ai fait préparer une chambre, comme vous me l'avez demandé. Il faudra que vous excusiez le manque de confort. Pour des hommes, nous nous trouvons bien installés, mais... » La jeune femme l'interrompit. « Cela n'a pas d'importance, je ne passerai d'ailleurs qu'une nuit ici. Il est vrai que, dans quelque temps, je reviendrai peut-être. Mais, je le répète, cette question d'installation n'a aucune importance. » Elle entra dans le salon, y jeta un coup d'œil et demanda. « Monsieur Spitzfahrer va bien ?»« Très bien, il est occupé en bas, car on nous a annoncé pour cette nuit un chargement. » « Cela marche toujours ?»« Parfaitement. Les Français n'y voient que du feu et se demandent qui peut bien ravitailler nos submersibles. » La comtesse se mit à rire. « C'est très intéressant. J'aimerais à vivre ici, figurez-vous, monsieur Elmer, tout au moins pendant quelque temps. Cela m'amuserait d'aller avec vous piloter les barques chargées qui amènent ces précieux chargements. » « Eh bien, mais ce ne serait pas chose impossible, madame. Ce soir, voulez-vous ? Nous vous prendrons dans le cotre. » « Je ne dis pas non. » Tout en parlant, madame de Ronchet enlevait sa cape, son voile, son chapeau. Puis elle dit en riant. « Il n'y a rien à craindre ici, je puis ôter ma perruque. »« Certes, nous sommes entre gens sûrs, madame la comtesse. » Un instant plus tard, les brillants cheveux bleus apparaissaient, et madame de Ronchet, s'asseyant sur le canapé, disait à Elmer en désignant une place près d'elle. « Venez ici, que je vous apprenne quelque chose. »« Quoi donc, madame ?» Et bien que vous allez avoir un hôte. »« Qui cela ? Le lieutenant baron de Reichensfeld. L'autre sursauta. Le baron de Reichensfeld ? Il est en France ?
Pas encore, mais il y sera bientôt.
Et comment ? Écoutez, c'est toute une histoire. Reichensfeld, comme je vous l'ai écrit, a été grièvement blessé il y a environ 3 mois. On l'a amputé d'une jambe, et en outre, il est borgne. Bigre, lui qui était si orgueilleux de sa personne. Très fat, oui. Aussi est-il furieux, comme vous pouvez le penser.
Je le comprends.
Donc, le baron, blessé, se trouvait soigné à l'ambulance du château de Vanel, dans le nord. Le dit château étant celui de mon mari, et maintenant le mien, puisque cet excellent Maurice avait fait sans difficulté un testament en ma faveur. Vanel était occupé par nos compatriotes, et là aussi était venue s'installer Madame Otto Mulbach avec sa nièce, Mademoiselle de Valserre, que mon cousin Otto jugeait préférable de conserver sous sa coupe au lieu de la renvoyer à la famille de son fiancé. Ah, la belle Florita ! Une lueur passa dans les prunelles d'Hilda. La comtesse dit avec un peu d'âpreté dans la voix. « Oui, la belle Florita, dont Reichensfeld était fou. Mais elle le dédaignait, se montrait avec lui de la dernière insolence. Et voilà qu'à cette même ambulance, on apporta un jour le capitaine de Pinvalas, fait prisonnier. Ah, par exemple, Florita, qui s'occupait un peu des blessés, se trouva en rapport avec son fiancé, put combiner avec lui un plan de fuite, de concert avec un Polonais, traître à sa patrie allemande. Bref, passant sur différentes péripéties, sur la scène qui eut lieu entre le baron et monsieur de Pinvalas, et à la suite de laquelle le Français fut condamné à être fusillé le lendemain, je vous dirai que Florita et son fiancé réussirent à s'évader pendant la nuit avec la complicité du Polonais. En dépit des ordres donnés, des recherches effectuées, on ne put les découvrir. Et par vous, je sus un peu après qu'ils avaient réussi à gagner la France, qu'ils étaient sauvés. Oui, je l'ai appris très vite, car la nouvelle a couru aussitôt tout le pays, et j'ai pensé qu'elle vous intéresserait. Je crois bien, vous ne vous doutez pas même à quel point. Hilda se tut un moment, les lèvres un peu crispées, puis elle reprit. Vous imaginez la fureur de son oncle et du baron quand ils virent envoler ces précieux oiseaux. Dès qu'Otto Mulbach sut qu'il était impossible de les reprendre, il me fit avertir par son agent de Genève, car, outre le désagrément de voir échapper sa nièce, qu'il comptait donner en mariage au baron de Reichensfeld, il avait, il a toujours, d'autres inquiétudes au sujet de cette évasion. Lesquelles donc ? Eh bien, Florita a pu voir et entendre certaines choses pendant son séjour là-bas, quelle qu'ait été la prudence de Mulbach à ce sujet. Puis, dans les derniers temps, il n'était pas absolument sûr de sa femme. Ah, c'est fort ennuyeux en effet. N'est-ce pas ? Elle a pu faire à Mademoiselle de Valserre quelques confidences. Voyez donc qu'elle lui ait appris, par exemple, ce qui se passe à Kerhéven. Elle-mère bondit. Ah non, pas de ça. Ce n'est qu'une simple supposition. Elle a pu également lui révéler mon rôle, celui de son mari, de son beau-frère, que sais-je. Il faut espérer qu'il n'en ait rien. Mais la sagesse veut qu'on se méfie, qu'on se prépare. Vous avez raison. Cependant, il est une chose rassurante pour le moment. Il paraît qu'à la suite de sa blessure, la jeune fille a complètement perdu la mémoire et ne saurait dire un mot de ce qui s'est passé là-bas. Très bien. Mais si elle a su quelque chose, elle a pu en faire part à son fiancé avant que survînt cette amnésie. En effet. Vous voyez donc qu'il faut être sur nos gardes et prévenir l'ennemi. Prévenir comment ? Je vous l'expliquerai tout à l'heure. Dites-moi, avez-vous rencontré déjà monsieur de Pinvalas ? Oui, précisément hier. Comment a-t-il été pour vous ? Mais très bien, comme toujours, aimable, à sa manière, un peu réservée, un peu fière. D'ailleurs, nous n'avons échangé que quelques mots. Sapristi, quel beau garçon ! C'est un échantillon de Français qui fait honneur à la race, celui-là. Et ce n'est pas son bras de moins qui l'empêchera de faire toutes les conquêtes qu'il voudra. Mademoiselle de Valserre doit en être folle de ce fiancé-là. Le visage de la comtesse se contracta. Pendant un moment, les cils blonds s'abaissèrent, voilant un peu le regard. Puis Hilda demanda. « Vous n'avez rien remarqué dans son attitude à votre égard ? Son amabilité vous a paru naturelle ?»« Très naturelle. »« Bien, j'espère qu'il n'y a rien à craindre pour le secret de Kerhéven. Mais quand vous le reverrez, tâchez donc de lui parler habilement de Mulbach, de moi. Je voudrais savoir s'il a quelques soupçons à notre sujet. »« Je le ferai, madame. » Mais vous me disiez tout à l'heure que le baron de Reichensfeld allait devenir l'hôte de Kerhéven. Oui, pour une œuvre de vengeance. Elmer répéta d'un ton de surprise. Pour une œuvre de vengeance. Le sourire mauvais entr'ouvrait les lèvres de madame de Ronchais. Eh oui, ce pauvre baron en veut à Florita, comme vous pouvez le penser. En effet, c'est assez compréhensible. Il veut les frapper dans leur bonheur, lui-même, en choisissant son heure. Pour cela, il fallait qu'il vînt ici, où, vraisemblablement, séjourneront assez longtemps les amoureux, d'autant plus qu'il est probable que le marquis aura un congé de réforme, étant donné sa mutilation. Donc Reichensfeld a fait agir les puissantes influences qu'il possède, et il a obtenu d'être embarqué sur un des sous-marins qui passeront dans l'Atlantique, lequel sous-marin le laissera ici en venant s'y approvisionner. Oh, c'est en effet une faveur. On ne peut donc rien lui refuser à monsieur de Reichensfeld. Pas grand-chose, comme vous voyez. Il détient sans doute quelque important secret. La jeune femme rêva un moment, puis elle se leva d'un mouvement souple. Nous reparlerons de cela, monsieur Elmer. Je voulais seulement vous prévenir de tenir prêt un appartement pour le baron, qui, sans doute, arrivera dans le courant du mois prochain. Vous aurez là une recrue qui ne sera pas à dédaigner. Il est intelligent, Reichensfeld. Il vous donnera peut-être de bonnes idées. Maintenant, voulez-vous me montrer ma chambre? Je vais me reposer un peu avant le déjeuner. » Ils sortirent du salon. Comme ils atteignaient l'extrémité du vestibule, la porte de la pièce que l'on appelait la chambre des veines s'ouvrit, livrant passage à Spitzfahrer, suivi de ses Danois. Il dit sans surprise en s'inclinant. « Ah, madame de Ronchais, tous mes hommages, madame la comtesse !» Elle lui tendit la main. « Eh bien, cela va toujours dans les souterrains ?»« Très bien, tout marche à merveille. »« Tant mieux. Avez-vous enfin reconnu toutes les galeries ?»« Non, pas encore, c'est un vrai dédale là-dedans. » « Ah, ils en avaient fait un travail sous terre, ces hommes d'autrefois. Les non-initiés qui auraient osé s'aventurer là auraient eu au fait de s'y égarer à jamais. » Ce labyrinthe s'étend certainement à une très grande distance sous les terres, et il n'y a rien d'impossible à ce qu'une issue existe à Runesto. Le marquis de Pinvalas ne l'a jamais nié. Elmer déclara, en effet, « Mais je crois qu'il sera difficile de lui soutirer ce secret. Quant à moi, je suis persuadée qu'elle se trouve dans la crypte de la chapelle. C'est le lieu le plus ancien du château, antérieur à la vieille tour et à la chapelle même. » Hilda eut un geste approbateur. C'est très vraisemblable. Ah, ce qu'il nous faudrait, c'est le plan de ces souterrains. Monsieur de Pinvalas le possède peut-être. Spitzwarer secoua la tête. Oui, cela nous serait utile. Mais enfin, tel quel, ils nous servent bien, madame. Vous verrez ce que nous en avons fait. Et il y a de la place encore. Notre empereur peut y faire mettre des tonnes d'explosifs, de quoi faire sauter toute cette côte de Bretagne. Et il rit bruyamment. Mais madame de Ronchais resta sérieuse. Elle dit, après un court silence, « Tout cela est fort bien, pourvu que le châtelain de Runesto n'ait jamais le moindre soupçon à l'égard des habitants de Kerhéven. Car s'il possède un plan des souterrains, il lui serait peut-être facile de venir faire l'indiscret dans l'ancien domaine de son farouche ancêtre. Ah, mais non, pas de ça. D'ailleurs, il aurait un fameux ouvrage à faire avant d'y arriver, car probablement les galeries doivent être obstruées de ce côté-là, comme toutes celles qui se trouvent à cette distance sous les terres, là où le sol n'est pas du pur granit comme ici. Et puis des soupçons à quel propos en aurait-il? Voilà bien longtemps que nous faisons tranquillement nos petites affaires, sans éveiller l'attention de personne. Il suffit parfois de peu de choses. Monsieur Elmer vous dira sur quoi je fonde mes craintes à ce sujet. À tout à l'heure, messieurs. Je déjeunerai avec vous et nous causerons encore de tout cela. » Elle ouvrit la porte qu'Elmer lui avait désignée comme étant celle de la chambre préparée pour elle et entra dans la grande pièce sombre, tendue de reps marron fané, meublée de vieux chênes presque noirs. Une fenêtre étroite, garnie de barreaux de fer, lui mesurait l'air et le jour. Hilda la reconnaissait bien pour y être venue deux ou trois fois jadis, quand cette chambre était celle d'Inès de Valserre. Le souvenir de la jeune femme si tragiquement disparue n'émut pas un instant madame de Ronchais. Celle-ci avait d'autres soucis en tête. Et quand elle fut étendue sur la chaise longue d'Inès, elle se plongea en des réflexions qui devaient être fort absorbantes, à en juger par le pli profond barrant son front et l'expression soucieuse du regard sous les paupières mi-baissées.